Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est dans ce studio à mes côtés pour vous informer, vous rassurer, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Ça c'est un vrai bonjour, hein. On vous sent en forme aujourd'hui. Allez, au sommaire aujourd'hui, d'abord notre grand dossier du jour dans lequel nous allons prendre soin de votre système digestif et décrypter ces petits troubles qui peuvent nous embêter au quotidien, ballonnement, gaz intempestif, problèmes de digestion, quels sont les comportements qui entraînent tous ces désagréments? Et puis à l'inverse, comment en finir avec tous ces troubles? Alors pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons le docteur Jean-Jacques Reynaud. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous vous proposons un focus sur une substance dont on parle de plus en plus, la mélatonine en supplémentation, pour nous aider à mieux dormir. Pour qui est-elle vraiment indiquée? Y a-t-il éventuellement des risques à l'utiliser? Jimmy fera le point. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouvons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous décryptera l'expression « c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins ». Est-ce que c'est vraiment le cas en matière de sexualité ?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer cette émission par cette question de Thomas. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors, j'ai une petite question. Ma mère, elle a des griffes d'orteils. Son pédicure la soulage avec des soins, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Je voulais savoir s'il n'existait pas une intervention pour en finir une bonne fois pour toutes.
Merci beaucoup Thomas pour votre question. Alors pour vous répondre avec précision, nous avons fait appel au docteur Blandine de Melenard. Elle est chirurgien orthopédiste à l'Institut de la Cheville et du Pied à Paris.
La griffe d'orteil est un orteil déformé qui entraîne une douleur par conflit avec la chaussure. Donc pour traiter définitivement le conflit, il faut redresser l'orteil et là c'est un traitement chirurgical. Alors il faut en même temps, simultanément, opérer la déformation du gros orteil qu'on appelle l'hallux valgus, qui est en général la cause de ces griffes d'orteil, pour éviter que l'ensemble ne revienne. Et à ce moment-là, le traitement est définitif et votre mère n'aura plus besoin d'aller chez le podologue.
Voilà, c'était le docteur de Melenard au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une autre question pour vous, cette fois celle que nous a laissée Margot. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. Alors j'ai mon enfant qui va rentrer prochainement à la maternelle. C'est vrai qu'il est encore très attaché à sa sucette et à son doudou. Et je me demandais comment faire pour anticiper cette séparation-là qui risque d'être très dure. Merci pour vos réponses et puis belle émission à vous.
Bon, Jimmy, une maman qui anticipe bien, hein, parce qu'elle dit rentrer prochainement à la maternelle, c'est probablement septembre, on est en mars, elle est prévoyante, c'est très bien, et je peux la comprendre, parfois c'est très difficile, effectivement, la tétine à l'entrée à la maternelle, même si dans certaines écoles, il y a des tolérances. Moi, mon grand, il n'y avait pas droit, la petite de 3 ans, oui, à la sieste, il l'autorise. C'est quand même mieux de l'arrêter à ce moment-là, non? 3 ans, c'est pas mal, il ne faut pas la garder jusqu'à 6 ans.
Oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un enfant de 3 ans n'a plus besoin de tétine. Il n'a plus le même besoin de succion qu'un nouveau-né. Et donc finalement, on lui donne, mais on va le conforter dans cette angoisse, notamment le soir, de séparation. Et ça va être quasiment un objet de régression et on va infantiliser les enfants. Et ça nous fait plaisir aussi, nous, parfois, aux parents, de donner cette tétine, puisqu'on a l'impression de revoir un bébé. Ensuite, il faut bien comprendre que si l'enfant s'endort avec ça, ça va participer à ce qu'on appelle, je vous en ai déjà parlé, des rythmies du sommeil. Donc l'enfant va s'endormir avec cette tétine, il va tomber dans ce sommeil grâce à la tétine. Et puis entre chaque cycle du sommeil, les petits trains du sommeil qu'on peut avoir, eh bien il y a des petites périodes où l'enfant va se réveiller. S'il se réveille qu'il n'a plus sa tétine en bouche,
les pleurs.
Eh bien il va se mettre à pleurer. Donc ça va participer à de mauvaises nuits du sommeil. Sans parler du fait que souvent à 3 ans elles sont un peu crades parce qu'elles traînent un peu partout. Donc il peut avoir des mycoses puisque à ce moment-là l'objet on
c'est bon, il a arrêté, il est convaincu le petit, je crois.
Et puis surtout l'argument le plus important, c'est surtout les troubles dentaires liés à tétine. Regardez,
il y a
la
des
bouche.
Enfants qui la gardent jusqu'à 6 ans. Des fois,
mais regardez
vu,
la tétine, un enfant qui garde une tétine jusqu'à 3 ans, si vous lui demandez de fermer la bouche, vous allez vous rendre compte qu'il a des incisives très pointues, comme Dracula, et il n'arrive pas à fermer la bouche complètement. Ça entraîne des malocclusions dentaires. Et à ce moment-là, on va aller chez l'orthodontiste pendant de nombreux mois, voire nombreuses années, car on va empêcher les dents de pousser correctement. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, il faut s'en débarrasser.
Je crois que c'était assez convaincant. De toute façon, Margot a l'air assez décidée à faire arrêter son enfant. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Je sais que vous êtes un expert, un grand-papa aussi de 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire arrêter la tétine?
Alors,
sans drame?
On peut essayer le chantage, ça ne marche pas souvent, malheureusement. Ça. Le Père Noël, c'est passé, il va falloir attendre 9 mois.
Oui, mais il y a les Pâques là, je sais pas, on peut trouver une astuce.
Alors, il y a un truc qui marche, hein, c'est un dentiste qui a proposé
ça. C'est une histoire de fée,
C'est la fée des tétines. La fée des tétines, c'est une fée qui vient le soir, à qui on va donner un
c'est
petit verre de lait.
C'est scientifiquement prouvé tout ça.
Ça marche, ouais. C'est 100% de réussite, hein, je vous le garantis. On laisse un petit verre de lait sur la table avec un petit cookie, on ne sait jamais,
elle
a fait des
tétines,
elle est gourmande à la fin. Et puis on explique que l'enfant va s'endormir avec la tétine, comme d'habitude, mais que la fée va passer durant la nuit, récupérer la tétine pour la donner au petit bébé qui vient de naître.
L'avantage, c'est qu'elle passe toute l'année.
Elle passe toute l'année,
c'est
et c'est pas la faute des parents. Et en échange, on va laisser la tétine contre une petite pièce ou un cadeau. Et on se réveille le matin, il n'y a plus de tétine.
C'est du vécu, ça a vraiment marché chez les Mohamed ?
Chez tout le monde, je vous assure, je le donne aux parents. Même on m'appelle pour une angine, je parle de la fée des
tétines. Toujours.
C'est un placement de produit où je ne gagne rien, mais c'est 100% garanti, ça marche toujours.
Bon, c'est super, les enfants sont contents. Mais alors, quand c'est pas la tétine et que c'est le pouce le problème, parce que là, on ne peut pas couper le pouce pour le donner à la fée des tétines.
C'est vrai, il
n'y
a pas la fée des pouces, malheureusement.
Vous avez un petit astuce, non ?
Le problème, c'est que le pouce va déformer le voile du palais et ça va entraîner d'autres problèmes. Mais malgré tout, on se rend compte que l'enfant va sucer le pouce un peu moins longtemps et un peu moins frénétiquement qu'avec la tétine. Alors, il faut trouver des petits stratagèmes. Et souvent, ça met un peu plus de temps.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Jimmy. On fait un petit coucou à la fée des tétines, bien sûr. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et donc avec vous, on va passer notre tube digestif au microscope en quelque sorte. D'abord, si on prend les troubles digestifs, on va dire les plus fréquents, les ballonnements, les gaz par exemple, je me trompe ou finalement on est tous concernés un jour ou l'autre, hein, que ce soit ponctuel ou chronique, régulier.
Alors en effet, on est tous concernés, mais néanmoins, on peut considérer qu'il y a la moitié de la population qui en souffre de manière chronique. 15% consultent, ce qui fait quand même des millions de personnes, et les trois quarts des cas sont des choses qui gênent beaucoup dans la vie quotidienne.
Est-ce que ça touche autant les hommes que les femmes ? Parce qu'une idée
reçue,
c'est que
c'est les hommes qui ont le plus de flatulence, c'est connu.
C'est assez amusant, parce que quand on regarde la science, on dit pas plus les hommes que les femmes.
Ah.
En réalité, j'aurais tendance à dire que moi, d'expérience, les femmes en souffrent plus que les hommes pour des raisons sociales. Déjà, la femme a des tenues plus serrées. Donc dès que ça ballonne un peu, elle va être beaucoup plus gênée que l'homme.
Oui.
La femme a aussi un régime alimentaire différent. Elle prend plus de légumes, plus de sucre, ça fermente plus que l'homme. Et la femme va être plus gênée par les gaz que l'homme, finalement. Donc globalement, la science dit pas plus, moi je dis plus.
Mais bon, les princesses peuvent avoir des gaz, hein, c'est pas un problème.
Sûr.
Alors, pourquoi on est ballonné ? Pourquoi on a ce ventre qui peut enfler ? C'est forcément parce qu'on mange trop que ça arrive déjà ou pas ?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on appelle le ballonnement. C'est amusant parce qu'il y a une équipe anglaise qui a mesuré le tour de taille des gens. Ils sont aperçus que 25% des gens qui se disaient ballonnés avaient un tour de taille qui ne bougeait pas. Donc le ballonnement, c'est une chose, c'est un ressenti.
D'accord.
Alors pourquoi est-ce qu'on est ballonné ? En effet, si on mange beaucoup, on va être ballonné, puisque dès qu'on mange, on augmente le contenu en gaz de l'intestin de près de 60%.
Oui.
Après, il faut que ces gaz circulent et fassent leur place. Donc souvent, on est ballonné parce que les gaz ne circulent pas, parce que la sangle abdominale ne vient pas en arrière, ne tient pas les gaz et le diaphragme ne se relâche pas. Et puis, on peut être aussi ballonné parce qu'on a une flore particulière et aussi parce qu'on a des aliments qui vont créer des gaz.
Et puis vous dites, quand on mange beaucoup, on peut être ballonné, mais ça commence aussi peut-être par l'alimentation avec la mastication. Si on avale nos aliments, est-ce qu'on est plus ballonné que si on faisait l'effort de
mâcher ? Moi, je mange très vite, mais je n'ai pas de problème de ballonnement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui avalent comme ça, on les voit, c'est des gouffres. Hein.
Alors, c'est un vrai souci parce que c'est l'alimentation moderne, on mange trop vite. Quand on mange trop vite, on ne mastique pas. Et quand on ne mastique pas, on ne mastique pas aussi parce que les aliments n'ont pas besoin d'être mastiqués. On a souvent une alimentation, qu'on mange un sandwich, un McDo, c'est tout mou, ça n'a pas besoin d'être mastiqué. Nous, quand on pose des prothèses œsophagiennes, on évite le pain et on dit les biscottes, parce que les biscottes, on ne peut pas les avaler tout rond. Et donc, quand on avale les choses tout rond, d'abord, l'estomac va avoir du mal à digérer, il va devoir faire le travail que font les dents. En plus, le travail enzymatique ne se fait pas au niveau de la bouche.
Oui, parce que ce n'est pas juste le rôle de la mastication, ce n'est pas juste de broyer
c'est
les aliments. La salive,
c'est aussi chimique. Ouais. Dans la salive, il y a ce qu'on appelle une amylase. Si vous mettez du pain dedans et si vous gardez le pain longtemps dans la bouche, il va devenir sucré, parce qu'il est dégradé. Et si le pain n'est pas dégradé ici, il va se dégrader dans le côlon où il va fermenter, donner des gaz.
C'est intéressant, hein, Jimmy. Vous qui mangez beaucoup de pain, ça va vous être utile.
Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne mastication ? Quand est-ce qu'on sait qu'on a bien mâché un aliment ?
Alors, on mâche 7 fois, je crois.
Alors après, on peut prendre des chronomètres, qu'on fait les scientifiques. En réalité, il faut prendre des mesures d'hygiène de vie, manger plutôt assis, ne pas manger des aliments trop mous, couper tranquillement.
Mais voilà. Même bouchée, il faut la mâcher un nombre de fois
temps.
En particulier.
Non, parce que là, vous allez stresser les gens et on ne va pas prendre du plaisir à manger si on doit chronométrer chaque bouchée. Par contre, on prend du plaisir à manger lorsqu'on garde l'aliment dans la bouche. Mais déjà, si on mange assis, en découpant les aliments avec des aliments un peu fermes qu'on doit mastiquer, ça se passera mieux que si on mange un sandwich debout en 5 minutes.
Alors, venons-en aux gaz, aux flatulences. Hein. Certains, n'est-ce pas Jimmy, hein, sont plus gênés que d'autres. Comment se forment ces gaz intestinaux qui nous dérangent tant ?
Alors, ils se forment de plusieurs manières. Tout d'abord, on en avale en mangeant. rentrent. Et puis, il y en a qui se forment à l'intérieur du fait de la digestion et de la fermentation. Donc, ça se fait en fonction du type d'aliment et de la flore qu'on peut avoir. Et puis, il y a des échanges de gaz qui se font entre le sang, la respiration, l'intestin, tant et si bien que quand on mange un aliment, on peut avoir mauvaise haleine, parce que les gaz circulent à l'intérieur de l'intestin vers le poumon.
Et est-ce qu'on peut imaginer, bon, certains gaz font du bruit, certains font des odeurs, est-ce que ça peut refléter justement
ça sent le vécu, là, encore,
une hygiène
après la
de vie particulière ou à certains aliments qu'on a pu manger?
Alors, les scientifiques sont des gens très particuliers. Ils ont été quand même amenés à savoir ce qu'il y avait dans les gaz de l'intestin. En réalité, il y a 5 gaz particuliers qui ne sentent rien. Il y a de l'azote, de l'oxygène, du CO2, de l'hydrogène et du méthane. Il ne faut pas fumer à côté, ça peut exploser. Et puis, il y a les derniers qui sentent mauvais, qui sont les soufrés. Ah, et les soufrés représentent 1-2% et ça donne une odeur d'œuf pourri.
Oui.
Et ça se voit avec certains aliments, une certaine flore.
Incroyable.
Alors, quand on a ces vents qui sentent mauvais, ce n'est pas une preuve de mauvaise ou de bonne santé.
Je vais vous dire, si ça fait beaucoup de bruit et que ça sent très très fort, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas bien là-dedans?
Non, pas vraiment. Non. Les gens me disent pourri de l'intérieur. Non, c'est simplement l'alimentation.
Les gens vous disent ça?
Oui, bien sûr, je pourris de l'intérieur. Ça les inquiète vraiment, savoir cette odeur sort de l'intérieur, il se passe quelque chose de pas normal. En réalité, non. Le bruit, etc., ça dépend si on serre les fesses lorsqu'on relâche les gaz. Il y avait Mizou Mizou avec les nuls qui étaient pétomanes qui arrivaient à faire de la musique avec son anus.
Donc ça peut être de l'art même.
Voilà, ça peut être de l'art. Ça dépend comment est-ce qu'on fait sortir ces gaz. Avec force, en serrant les fesses, on serre les fesses.
Mais justement, Mélanie est très pudique et je sais qu'elle retient ses gaz.
Mais je ne suis pas pourrie de l'intérieur.
Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux de se retenir de péter?
Non, ce n'est pas dangereux. Par contre, ça crée un inconfort. Quand un gaz veut sortir, il vaut mieux le laisser sortir, sinon on a mal. Notamment, on voit ça dans les colopathies fonctionnelles, le fait de retenir ces selles et ces gaz crée des douleurs et les gens sont soulagés par l'émission.
Donc ça ne va pas créer de maladie intestinale particulière.
Non, ça ne va pas créer de maladie intestinale, mais ça va créer un certain inconfort.
Mmh. Docteur Reynaud, on va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et donc on s'intéresse cet après-midi à vos côtés à certains des soucis digestifs qu'on peut tous avoir à un moment donné de la journée ou de plus ou moins fréquemment. On va revenir sur les ballonnements dont on a parlé tout à l'heure. On a vu que bien mastiquer déjà, ça permet de réduire ce trouble. Mais est-ce que parfois, ça ne peut pas cacher d'ailleurs un autre problème? Le fameux intestin irritable.
Alors, ça ne le cache pas vraiment, mais ça peut le recouvrir. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que le ballonnement ne rentre pas dans la définition intestin irritable, mais souvent, les gens qui ont un intestin irritable ont une hypersensibilité, ils sont plus ballonnés que les autres.
Mmh. Je refais un tout petit point en arrière sur le nombre, sur les gaz qu'on peut avoir, parce que Mélanie...
Ça vous intéresse,
en
retenait, hein,
mais non, elle n'ose pas poser la question.
Question pratique, allez-y concrète.
On sait que le cœur bat 60 à 100 fois par minute, que la température du corps, c'est 37 degrés. Est-ce qu'on sait combien de fois par jour on pète? Est-ce que c'est un truc scientifique?
Jusqu'à combien c'est normal?
Alors, c'est un truc très scientifique, puisqu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont regardé. Donc, en moyenne, c'est entre 8 et 15, et on doit s'inquiéter au-delà de 20. On a même mesuré le gaz émis, qui doit être entre un demi-litre et 1,5 litre. Et on a même mesuré le gaz par P, qui doit être entre 1/3 de litre et 100 ml. Ah, vous voyez, les scientifiques sont des gens très particuliers.
Mais il est temps de consulter, parce que vous dépassez largement tous ces critères.
Bien sûr. Alors, est-ce que d'un point de vue général, docteur, quand on souffre régulièrement de ballonnement, je reviens au ballonnement, même bien que Jimmy ne veuille parler que de flatulence aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même revoir un peu ce qu'on met dans son assiette?
Oui, en effet. C'est-à-dire que les premières mesures qui vont permettre de régler les ballonnements sont des mesures diététiques. Après, il y a des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses. Et donc, au niveau diététique, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des aliments qui fermentent. Parce que le ballonnement, même s'il n'est pas principalement dû à l'augmentation des gaz, on ne peut jouer que sur ce facteur-là. Alors, qu'est-ce qui fermente? Alors, il y a un truc très, très amusant qui est très à la mode, c'est les FODMAPS. FODMAPS, c'est un acronyme qui veut dire fermentiscible, oligo, mono et disaccharide et polyol.
C'est un peu compliqué tout ça.
Bah oui, donc ce sont des sucres. On en trouve dans le lait, on en trouve dans les céréales, on en trouve dans les aliments light, bonbons, soda, etc. Et on en trouve aussi dans les légumes secs. Et donc, ces FODMAPS, c'est les Australiens qui l'ont montré. Quand on a beaucoup de gaz ou de ballonnement, on regarde si on en mange beaucoup. Si on en mange beaucoup avec l'aide d'une diététicienne ou d'une application qui existe sur smartphone, on va essayer de réduire cet apport pendant 15 jours et voir ce qui se passe. Et donc ça marche bien. Après, il y a d'autres mesures médicamenteuses dont on peut parler après. Mais diététique, très important.
Juste sur les FODMAPS, c'est comme ça qu'on dit, on ne risque pas d'avoir des carences. Parce que bon, vous avez parlé des sucres, mais si on arrête toutes les céréales...
Ce ne sont pas des carences, puisque dans le régime FODMAPS, on explique aux gens qu'on n'interdit pas des aliments, ne diabolise pas des aliments. On dit, vous en mangez un peu moins et remplacez tel aliment par tel autre aliment. On offre quelque chose...
Il y a un miroir.
À la place de ça, vous prenez ça. Et il y a une deuxième chose qui est importante dans les ballonnements, ce sont les fibres. On adore les fibres, mais en réalité, les fibres sont responsables responsables de ballonnement. Il y a deux types de fibres, les fibres solubles qui, elles, vont ralentir le transit, donc garder les gaz, et qui vont fermenter. Et les fibres insolubles qui sont des fibres qui vont augmenter le volume. Donc globalement, en mangeant des fibres, on pense être vertueux et diminuer le ballonnement. En réalité, on n'a à faire que l'augmenter.
Ah, c'est intéressant parce que c'est un peu à contre-courant.
C'est étonnant parce que pourtant, on ne mangeait pas beaucoup de légumes.
Et non, mais non, mais non. Mais est-ce que si on perd du poids, on peut se dire qu'on va être un peu moins ballonné? Et du coup, la question qui va en découler, c'est est-ce que quand on est en surpoids, on souffre plus de ballonnement que les autres?
Alors c'est plutôt le contraire. C'est en effet, quand on est surpoids, on se plaint de ballonnement parce que, comme j'ai dit, c'est une sensation subjective. On a l'impression d'être sous tension. Donc quelqu'un qui a pris du poids, déjà, il a de la graisse intra-abdominale, donc il a une tension interne. Et en plus, il a de la graisse sous-cutanée. Il a des vêtements trop petits, donc il se sent ballonné en réalité. Mais c'est normal, c'est le surpoids. Mmh. Ce ne s'appelle pas un ballonnement, ça s'appelle une prise de poids.
D'accord. Et justement, est-ce que perdre du poids, du coup, on réduit ce risque? Non, mais surtout, perdre du poids en faisant du sport, est-ce que bouger, ça améliore le confort digestif?
Alors, en effet, bouger fait partie des mesures non médicamenteuses, puisque le fait de bouger va mobiliser les gaz et les entraîner vers le bas et vous permettre de les expulser. Il y a une équipe qui disait il faut faire 45 minutes de vélo par jour, 5 minutes rapides, 3 minutes lents, c'est un peu compliqué à faire. Donc, essayer de bouger et de marcher, ça mobilise les gaz.
Avant de parler des médicaments, est-ce qu'il y a certains compléments alimentaires, certaines plantes qui pourraient nous aider justement à lutter
contre
le ballonnement?
Tisane de fenouil, on m'avait conseillé, moi.
Alors, quand on va sur Internet, on trouve des tas de trucs un peu bizarres, notamment le fenouil, qui soi-disant est conseillé par l'OMS. Moi, je suis sur le site de l'OMS, je ne l'ai pas trouvé. Il y a la menthe poivrée, les choses comme ça. Bon, pourquoi pas? Le romarin...
Si on se sent amélioré,
si
on peut continuer, il n'y a pas de risque.
Pas, c'est pas voilà. Toxique. Par contre, il y a des probiotiques qui coûtent cher, qui coûtent entre 30 et 50 euros, qui n'ont pas fait de preuves formelles. Donc avant de passer à ça, commencez par manger un peu moins de choses qui fermentent, bouger un peu plus, un peu moins de fibres. Ça vous coûtera moins cher que les probiotiques, sera plus efficace.
Pastilles de charbon, on en parle aussi?
Alors, il y a deux choses. Après, on peut essayer d'absorber ces gaz. Donc le charbon absorbe les gaz, mais d'un autre côté, il va constiper, donc il va en créer d'autres. Et en plus, le charbon va absorber les médicaments, on le donne dans les tentatives de suicide. Et donc, faire très attention quand on prend du charbon, de ne pas le prendre en même temps d'autres médicaments et ainsi d'avoir une efficacité diminuée. Il y a un autre médicament qui est la siméticone, qui se trouve à 300 mg dans les médicaments, qui absorbe aussi les gaz et qui n'a pas l'effet secondaire du charbon.
Et justement, du côté des médicaments, une fois qu'on a tout essayé, est-ce qu'on a quelque chose à proposer?
Qu'est-ce qu'il vous reste, Jimmy?
Ben ça, si on a fait un peu attention au FODMAPS, si on a fait un peu d'activité physique, et puis on a pris un peu de plantes, du fenouil, on a même pris des probiotiques.
Et ça marche pas.
Et ça marche pas.
Il y a toujours des flatulences, toujours des ballonnements.
Alors, généralement, on y arrive. On y arrive parce qu'on fait mal les choses. Quand on regarde le régime FODMAPS, par exemple, il est très compliqué à suivre. Si on veut vraiment le faire, parce qu'on a l'impression en screenant qu'on en prend beaucoup, faire une diététicienne, ça coûte cher, tout le monde ne peut pas le faire. L'application vaut 7 euros. Et les Australiens regardaient que quand on demandait à quelqu'un de vraiment le suivre, il y a uniquement 20% à 13% des gens y arrivaient. Donc, quelquefois, quand on n'y arrive pas, il faut remettre son travail, se dire peut-être que j'ai mal fait ce qu'on m'avait conseillé.
Mais il n'y a pas de médicament, allez,
non,
disons les mots,
non,
hein,
non, non.
Anti-ro, anti-P, non, ça
non,
n'existe pas.
Il n'y a aucun médicament anti-ro, anti-P. Et le médicament anti-ro ne serait pas bon, puisqu'il faut roter lorsqu'il faut roter, parce qu'il faut libérer l'estomac. Souvent, les gens qui sont opérés d'une chirurgie anti-reflux n'arrivent pas à éructer, et c'est une vraie souffrance. Donc, l'éructation soulage les gens. Il faut pas la bannir non plus.
Et les antispasmodiques, parce que souvent,
ne marchent pas du tout.
Mais souvent les patients en prennent des caisses et des
tout
caisses.
À fait. Ils en prennent
rien.
Beaucoup. Il n'y a aucune preuve là-dessus, ça ne marche pas. Ça marche par contre quand le ballonnement crée une douleur dans le cas d'une colopathie fonctionnelle, là, l'antispasmodique peut marcher. Mais en dehors de ça, non.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut prendre du temps de traiter un ballonné. Hein.
Ça peut prendre du temps, il faut être patient, il faut voir le bon médecin, il ne faut pas prendre n'importe quoi, et il faut savoir ne pas jeter une mesure trop vite. Le FODMAP, ça met 15 jours à faire effet. Donc, il ne faut pas essayer de butiner à droite et à gauche, et il faut être persévérant.
Très bien. Docteur Reynaud, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et donc désormais, on va passer à une question presque à la mode. Le gluten dans notre alimentation, est-ce qu'il ne pourrait pas finalement causer certains des problèmes digestifs dont on parle depuis tout à l'heure? Alors, docteur Reynaud, rappelez-nous d'abord, pour démarrer, ce qu'est précisément le gluten et où on le trouve dans notre assiette?
Alors, le gluten, c'est une petite protéine qu'on trouve dans les céréales, dans le blé, l'orge, le seigle. Donc, on trouve dans beaucoup d'aliments industriels et dans beaucoup d'aliments qu'on consomme régulièrement. Donc c'est très compliqué de faire un régime sans gluten pur.
En revanche, on doit faire un régime sans gluten quand on est intolérant et qu'on a la maladie cœliaque. Et ça, on a l'impression que tout le monde se révèle à 30 ans avec une maladie cœliaque. Et est-ce que c'est quelque chose qui apparaît un peu plus tôt dans l'enfance, qu'on peut découvrir avant?
Alors, en réalité, il y a deux pics pour la maladie cœliaque. Il y a un premier pic...
C'est l'allergie au gluten, clairement, on peut dire.
Alors,
ça comme ça?
C'est vraiment une allergie, c'est pas une intolérance. Vous avez raison de bien le préciser, faire la différence entre l'allergie et l'intolérance. L'allergie, c'est un processus immunitaire avec des cellules, des destructions. C'est quelque chose qui fait un peu peur, même si on arrive bien à traiter la maladie cœliaque, mais c'est quelque chose de très actif. L'intolérant, c'est simplement les gens qui disent ça, je le tolère pas bien. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc revenons maintenant à la maladie cœliaque. Donc on le trouve avec deux pics à l'enfance lorsqu'on commence à introduire le gluten. Donc les pédiatres ne sont pas tous d'accord. Il ne faut pas le faire avant 3 mois, il ne faut pas le faire après 7 mois. Il y a une fenêtre de tir étroite. Et donc chez l'enfant, entre 6 mois et 2 ans, on a un premier pic de maladie cœliaque. Et après, on a un deuxième pic chez l'adulte entre 20 et 40 ans, mais on peut le voir chez les gens de 60 ans.
D'accord. Et donc là, vous disiez, il y a aussi ceux qu'on appelle donc les intolérants au gluten. Il y en a des vrais? Est-ce qu'il y a un test pour savoir si on est intolérant? Ou c'est juste, comme vous disiez tout à l'heure, les ballonnements, c'est un peu subjectif. Est-ce que là aussi, l'intolérance, c'est un peu subjectif? Ou est-ce qu'il y a des trucs pharmacologiques pour le prouver?
C'est subjectif. Autant pour la maladie cœliaque, il y a des tests diagnostiques, on peut affirmer une maladie cœliaque et la suivre. Autant pour les intolérants, sont les personnes qui vous disent « Depuis que je ne mange plus de gluten, je vais mieux. » Puis on fait état de test, ils n'ont pas de maladie cœliaque. Et en réalité, on en revient aux FODMAPs. Souvenez-vous des fameux FODMAPs. Dans les FODMAPs, vous avez les céréales. Et en réalité, les gens qui suivent un régime sans gluten suivent, sans le savoir, un régime sans FODMAPs. Et ils s'améliorent parce qu'ils fermentent moins. Pas parce qu'ils sont allergiques à la petite protéine du gluten, mais simplement parce qu'ils prennent moins de sucre, ils fermentent. Donc vous voyez, les molécules sont différentes. Les intolérants, c'est le sucre des céréales. Les allergiques, c'est la protéine des céréales. Donc ça n'a rien à voir.
Bah, tout est clair comme ça. Et quand on est allergique au gluten et qu'on a la maladie cœliaque, comment est-ce qu'on peut le savoir et comment on fait le diagnostic?
Alors, on fait le diagnostic très difficilement.
Ah bon?
On considère qu'en France, il y a à peu près 700 000 personnes qui ont cette maladie et on en connaît uniquement 10 à 20%. Quand on va dans les congrès de médecine, il y a une image qui est très belle, qui est un iceberg. Donc on voit, ça vous voyez, c'est ce qu'on sait, ça c'est ce qu'on pense savoir, mais il y en a peut-être encore plus. Donc le diagnostic est difficile parce qu'il n'y a pas de symptômes typiques. Chez l'enfant, c'est facile, il va avoir de la diarrhée, ça va être un tableau assez caractéristique. Chez l'adulte, ça va être des ballonnements, un peu de diarrhée, une anémie par carence martiale, une ostéoporose, un diabète, oui, un accident dans la famille. Donc on a du mal à savoir qui dépister. Mais par contre, quand on sait, un test sanguin simple arrive à faire un dépistage. On utilise les anticorps anti-transglutaminase de type IgA en vérifiant qu'il n'y ait pas de déficit en IgA, parce que c'est facilement utilisable. Donc ça, c'est le premier test, et après, on peut affiner un peu derrière.
Mais du coup, on n'a pas de traitement. Par contre, quand on est allergique au gluten, eh bien, on doit juste éviter le gluten.
Bah oui, ça s'appelle une allergie. Comme on est allergique aux piqûres d'abeilles, il faut éviter les piqûres d'abeilles. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de traitement. Alors, on a des recherches qui font que quand on mange, on peut manger des choses qui vont absorber de gluten pour permettre de manger un peu de gluten, mais ce n'est pas encore au point. Vraiment, une allergie au gluten, il ne faut pas manger de gluten. Et comme c'est une allergie, la nature est injuste. Quand vous êtes intolérant, vous pouvez manger un tout petit peu de quantité, il ne se passera rien. Mais l'allergie, la moindre petite molécule de gluten qui rentre, peut recréer une maladie qui est active. Donc les gens font un régime et hop, ils s'écartent et ils retournent à la case départ. C'est pour ça que c'est un régime très difficile à suivre, qui doit être réservé aux gens qui ont vraiment la maladie et ne pas l'imposer aux gens qui n'en ont pas besoin.
J'insiste un peu sur les intolérants au gluten. Il y a un test, ça, pour le coup, pour savoir s'il n'y a pas, si y a pas de prise de sang
le seul test, il est simple, il est clinique, c'est de dire... J'ai arrêté de manger des céréales, je vais mieux, donc j'étais intolérant aux céréales. Et je ne dis pas que je suis intolérant au gluten, je suis intolérant aux céréales et plutôt au FODMAPs et à la fermentation.
Et qu'est-ce qui se passe si on ne suit pas le régime quand on est allergique au gluten? Et si on se dit, bah, finalement, moi, la diarrhée, je m'en incommode, les douleurs abdominales aussi, est-ce que ça peut être grave?
Ah oui, ça peut être grave, en effet. Enfin, il ne faut pas non plus diaboliser les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, comme il y a une malabsorption, parce que l'intestin devient tout ras, on a une ostéoporose, l'os peut s'affaiblir, on a une anémie par carence martial. Et surtout, il y a un surrisque de cancer des voies ORL et digestives et de lymphome, qui est un cancer digestif, qui est 10 fois plus important chez les gens qui ne le suivent pas que chez les gens qui le suivent. Donc il y a vraiment un enjeu, mais on a le temps, on n'est pas pressé à vouloir le suivre à une semaine près. Tout ne va pas apparaître dans la première année.
Alors on a écrit beaucoup de choses ces dernières années autour du gluten, responsable de tous les maux digestifs. Là je ne parle pas forcément de choses très très pathologiques, mais du coup il y a de nombreux patients, vous le disiez tout à l'heure, qui se sont lancés comme ça tout seuls dans des régimes très restrictifs sur le gluten. Est-ce que c'est risqué pour le coup si on n'est pas vraiment intolérant ou allergique au gluten, de le bannir complètement de son assiette?
En soi, ce n'est pas risqué, puisque je suis en train de vous dire que quand on fait un régime sans gluten équilibré en remplaçant le gluten par autre chose, ça se passe bien.
On n'a pas absolument besoin pour l'organisme.
On n'a pas besoin du gluten pour l'organisme. Par contre, socialement, c'est compliqué. Il faut aller dans des restaurants sans gluten, chez
des
amis.
Produits sans.
Voilà, chez des amis, il faut tester un peu qu'est-ce que vous avez mis dedans, il n'y a pas d'industriel. On a une vie sociale difficile.
Resto, ça va être compliqué. Donc,
mais il y a des restaurants sans gluten, il y a des plats sans gluten. Il faut faire très attention, tout aliment industriel, il peut avoir des traces de gluten. Donc, non, vraiment, suivre un régime sans gluten strict quand on n'est pas allergique au gluten n'a pas de sens.
Et est-ce qu'on peut espérer perdre du poids avec un régime sans gluten? Parce que peut-être que.
C'est pas ce qui va faire perdre le plus de poids.
Si j'enlève le pain et toutes les viennoiseries que je mange, je pense que je vais m'aider.
Oui, si vous en mangez beaucoup, c'est le fait de supprimer les calories, pas de gluten.
Et certains sportifs d'ailleurs disent qu'ils ont de meilleurs résultats.
Des joueurs de tennis notamment, c'est Djokovic je crois qui avait sorti ça. Alors, en effet, lorsqu'on a une vraie allergie au gluten, eh bien, on revit parce qu'on a plus de force, on se sent mieux, on est moins anémique et on revit. Quand on est intolérant, on peut aussi revivre parce que le fait d'être ballonné, lorsqu'on est ballonné, on joue mal au tennis.
Mais en l'excluant, on sera forcément moins ballonné, on aura moins de gaz.
Il faut le tester. D'abord, il faut en consommer beaucoup. Quelqu'un qui consomme peu de céréales, si vous le supprimez les céréales, il ne va rien se passer. Les FODMAPs, on considère qu'à partir de 10 à 15 grammes, il va falloir peut-être essayer de réduire. Il y a des gens chez qui qui ont réduit, il ne se passe rien. D'autres chez qui ont réduit, il se passe quelque chose. Et l'avantage du FODMAP, c'est une fois qu'on a réduit que ça a marché, on peut réintroduire les aliments petit à petit. Ce n'est pas un régime à vie très restrictif.
Très bien. Docteur Reynaud, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour ces précisions pour améliorer notre confort digestif à tous au quotidien. Bonne continuation à vous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, on va passer à notre chronique Les Bobos du quotidien, dans laquelle on va s'intéresser à un complément dont on parle de plus en plus, un complément alimentaire dans les troubles du sommeil, c'est la mélatonine. Savez-vous exactement ce que c'est? Dans quelle situation on l'utilise? Notre reporter Valentin Piovesan vous a posé toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Mélatonine, non, ça me dit rien du tout.
Mais je suppose que ça a un lien avec la COVID-19, non?
Alors, je sais que c'est pas la même chose que la mélanine. Maintenant, la mélatonine, je sais pas du tout.
Non, attends, ça me dit quelque chose, la mélatonine...
La mélatonine? Non, je sais pas ce que c'est. Des vitamines, peut-être?
Je suis pas sûre à 100%, mais je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec le cerveau.
Du coup, j'imagine que ça doit être une hormone.
Pour réveiller, stimuler, je sais pas du tout.
Enfin, je sais qu'il existe des compléments alimentaires de mélatonine pour retrouver un sommeil plus ou moins normal.
Ah, c'est pour dormir? C'est pour aider à dormir? Ouais, c'est ça, non?
Est-ce que du coup, ce serait pas une hormone qu'on produit pendant le sommeil? Ou justement, c'est ce qui nous donne envie de dormir?
Soit ça réveille, soit ça endort la mélatonine.
Ça serait un substitut peut-être d'hormones pour réguler son sommeil.
Bon, Dimi, on va tout reprendre. Il y avait du bon, un peu du moins bon. On va faire un petit rappel d'abord. C'est quoi la mélatonine à la base? Parce que là, on parle de complément, mais que c'est quelque chose qu'on a dans notre organisme de façon naturelle. Hein.
Exactement, on appelle ça l'hormone du sommeil, alors que c'est plutôt l'hormone de la nuit, puisqu'elle va être synthétisée plutôt le soir, entre 2h et 4h du matin, par une petite glande dans le cerveau. Et c'est tout simple. Lorsque vous avez de la mélatonine, eh bien, ça vous dit qu'il faut dormir. Et on sait que lorsque on dort mal, car on manque de mélatonine, eh bien, lorsqu'on vous supplémente, eh bien, vous allez mieux dormir. On peut l'observer dans certaines situations, notamment quand vous êtes en décalage horaire, votre système dans le cerveau, vous avez une horloge.
Le jet lag. Quoi,
exactement, le jet lag. Normalement, votre cerveau est régulé comme une horloge et lorsque l'horloge est déréglée par manque de mélatonine, eh bien, on a de l'insomnie.
Alors aujourd'hui, il y a un tas de compléments alimentaires à base de mélatonine qui sont sur le marché. Pour qui, clairement, ça peut être indiqué? Là, vous avez cité le jet lag, mais j'imagine que ça peut être utilisé dans d'autres troubles du sommeil?
Alors, on le prescrit dans certaines situations par le docteur. Après 55 ans, lorsque vous avez des troubles du sommeil pour lesquels on n'a aucune explication, par exemple une dépression, peut vous donner de l'insomnie. Une maladie peut donner de l'insomnie. Si on n'a rien retrouvé, eh bien on s'est rendu compte que la mélatonine peut vous aider à vous endormir. Mais on sait aussi que cette mélatonine peut aider tous les insomniaques et tous ceux qui ont des troubles du sommeil le soir à l'endormissement. Vous ruminez, on a passé une journée où finalement on a été exposé aux écrans.
Vous avez 2 heures à vous endormir.
Vous prenez un peu de mélatonine, ça vous dit à votre cerveau, tiens, c'est l'heure d'aller se coucher.
Vous éteignez les écrans avant aussi, hein, avant de prendre la mélatonine.
Car si vous prenez la mélatonine à 15h en plein soleil, eh bien il ne va strictement rien se passer. Vous la prenez une demi-heure avant de dormir, ou l'heure du coucher supposé, et normalement, ça favorise le sommeil. Ce n'est pas un somnifère, ce n'est pas un anxiolytique. Donc, ça peut ne pas marcher si vous n'êtes pas dans les conditions nécessaires pour avoir une bonne nuit de sommeil.
Et on s'en procure comment, Jimmy? Parce que est-ce qu'il y a une forme à privilégier? J'ai vu qu'il y en avait en gomme, en pastille, enfin bon, bref, différentes formes. Est-ce qu'il faut aller en pharmacie ou est-ce qu'on se trouve sur Internet? C'est déjà pas mal.
Alors, ce qu'on trouve sur Internet ou en pharmacie, c'est de la mélatonine de synthèse. C'est quasiment la même. Moi, je vous conseille d'aller voir votre pharmacien.
Il y aura
vous
un conseil
sûr.
En plus.
Exactement,
hein,
vous aurez le conseil. Il faut bien comprendre que jusqu'à 1,99 mg, c'est sous forme de complément alimentaire et c'est en libre accès. À partir de 2 mg,
là, il faut le docteur et l'ordonnance.
C'est sur prescription médicale. Donc c'est un peu hypocrite, ça veut dire qu'il suffit d'aller voir son pharmacien, de discuter et vous avez votre mélatonine sous forme de comprimé ou de gélules ou de compléments alimentaires et tout le monde est content.
D'accord, est-ce qu'il y a quand même des contre-indications? On sait que quoi qu'on absorbe dans les compléments, dans les médicaments, il peut y avoir des contre-indications. Est-ce que là il y en a? Est-ce que par exemple si on prend d'autres médicaments par ailleurs, il peut y avoir un risque?
Attention aux interactions médicamenteuses, justement des anticoagulants, des antidiabétiques. On sait que certains antibiotiques vont augmenter la concentration de mélatonine et si derrière vous êtes pilote de ligne, vous conduisez un bus et que vous êtes un peu somnolent, on évite. Même chose avec les benzodiazépines, les anxiolytiques, si vous prenez en plus de la mélatonine, ça va augmenter la concentration. Tout ça pour vous dire que ça peut être naturel et puis synthétisé, mais ça reste un médicament, donc il faut être prudent et demander conseil à son médecin ou à son pharmacien.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va répondre à la question de Vanessa. Je vous la lis. On entend souvent le dicton « c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins ». Est-ce que vous pensez que c'est vrai concernant la sexualité? Alors Catherine, verdict, c'est vrai ou pas? Bah, c'est souvent vrai, hein, d'ailleurs. Bon, évidemment, nous, à l'exception de nous trois, bien sûr. Hein, mais sinon, on comprend très bien qu'à partir du moment où on fait l'amour, on est en train de faire l'amour. Quand on a fait l'amour et qu'on est rassasié, ben, on passe à d'autres choses. À partir du moment où on est toujours sur le sujet de la sexualité, que tout est, ça pose la question de où est-ce qu'elle ne s'exprime pas pour qu'elle ait besoin du vecteur verbal pour pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous sommes aussi plein de lapsus sur le sujet de la sexualité et c'est un peu ce qui nous échappe de ce que nous ne contrôlons pas et nous les interdits liés à notre inconscient sur le sujet de la sexualité. Donc il y a vraiment souvent le verbe qui est là pour annoncer des choses, vivre des choses, tester des choses ou s'éprouver ou se définir dans le regard des autres plus que la tranquillité de vivre pour soi intimement sa sexualité.
Et puis aussi un effet, on cherche parfois à épater la galerie. On en fait plus, justement, parce que parfois, il y a
alors
un concours...
Alors qu'on fait rien.
Voilà, il y a un concours de coq, hein, faut dire qu'est-ce qu'il y a entre ces messieurs.
Il reconnaît déjà à demi-mot que c'est un truc de mec, hein, d'en parler beaucoup.
Oui, mais c'est vrai aussi, même pour les filles, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toujours la peur de ne pas être de notre société. Et si notre société est censée être puissante, et notamment puissante par le vécu de sa sexualité et sa compétence, que nous évaluons notre pouvoir à notre compétence à faire l'amour, eh bien, évidemment, nous avons besoin de dire que nous le faisons de moult façons, que nous avons un CV de la sexualité qui est long comme le bras et que donc de fait c'est souvent très dans une distorsion de notre réalité et quand ce n'est pas une distorsion de la réalité vécue, ça n'est pas nécessairement l'expression de notre ressenti tout aussi librement vécu. Donc il y a souvent une marge en effet parce que nous avons peur de ne pas participer d'une société qui va bien, donc on a besoin de se montrer beau et énergique et capable
très actif.
De tout.
Est-ce que, je le blaguais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus masculin que féminin, comme ça, de chercher à épater la galerie sur le plan sexuel, je veux dire, en parole en tout cas?
Alors, je pense que ça l'a été beaucoup. Mmh. Je pense que c'est en train de changer un petit peu pour les toutes jeunes générations, mais sinon, effectivement, ça a été très une démonstration de la virilité qui participait aussi de l'intérêt aussi que les femmes avaient des hommes, c'est-à-dire qu'un homme qui dit, qui fait, etc., semble être en tranquillité sur le sujet, et du coup est plus rassurant pour une femme qu'un homme qui n'en parle pas, qui semble un peu inquiet ou timide, et du coup qui la laisse dans une espèce de flou qui l'inquiète quant à la sexualité. Ce qui est idiot, parce qu'un homme n'a pas à porter la responsabilité de la tranquillité, et la femme être une oie blanche qui a besoin d'être réveillée, révélée dans sa sexualité par un homme confiant. Ceci étant, on va plutôt vers les gens confiants, mais parfois on fait erreur parce qu'il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font.
Et puis surtout, on peut ne pas avoir forcément un très grand CV, mais avoir une grande expérience entre des gens qui vont enchaîner des CDD d'une semaine et quelqu'un qui est en CDI depuis quelques années. Ben malgré tout, celui qui est en CDI depuis plus longtemps, il a une plus grande expérience et donc ce n'est pas la quantité qui fait forcément la qualité.
On parle de sexualité, Jimmy, on est
d'accord.
Mais j'aime
bien cette
analogie. Parce que là, on est parti dans le monde du travail, mais
subtile,
okay.
Mais les auditeurs ont suivi.
Vous avez pas mal d'analogies en ce moment.
Voilà. Non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce n'est pas la démultiplication qui fait la compétence. Effectivement, la compétence est aussi à tirer le fil tout au long de sa vie et de sa relation. Après, évidemment, on peut avoir une relation de longue date et en fait tourner en rond sur la même chose et manquer effectivement de créativité et de sécurité et être dans une seule relation parce que justement, on doute de sa compétence par ailleurs. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de classe dans laquelle on pourrait se dire qu'on a plus de chances de tomber sur quelqu'un de plus aguerri et de plus tranquille. Et puis encore une fois, la tranquillité dans le domaine de la sexualité s'initie avant la sexualité. C'est la tranquillité tout court d'être un être humain confiant quant à lui-même, se sentant légitime dans sa position d'homme ou de femme. Et puis du coup, qui se reportera assez naturellement et tranquillement sur la sexualité. J'ai rarement vu des gens très inquiets sexuellement qui était très confiant par ailleurs. En général, c'est quand même toujours un peu le même
ça
personnage.
Ça dit toujours quelque chose de nous, la façon d'en parler quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à demain. Rendez-vous à la même heure, 15h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.